coq chante et les jours paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir les différentes techniques de biocontrôle des ravageurs de culture au Ménil-sous-Jumièges et Octeville-sur-Mer en Seine-Maritime en France avec les techniciens de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Il s'agit de protection des végétaux sans utilisation de produits chimiques. Avant tout, il faut s'entendre sur les termes utilisés. Il y a le biocontrôle, il y a la lutte biologique et il y a la protection biologique intégrée. La protection biologique intégrée est la définition la plus large. Elle désigne un système de lutte contre les organismes nuisibles qui utilise un ensemble de méthodes satisfaisant à des exigences à la fois économiques, écologiques et toxicologiques, des méthodes culturales, la lutte biologique et la lutte chimique. La lutte biologique, c'est l'utilisation d'organismes vivants ou de leurs produits pour prévenir ou réduire les dégâts causés par les ravageurs aux productions végétales. Quant au biocontrôle, c'est un ensemble d'outils utilisables pour la protection intégrée. Il repose sur l'utilisation de mécanismes régissant des interactions entre les espèces dans le milieu naturel. Il compte quatre types d'outils. Les macro-organismes invertébrés, c'est-à-dire les insectes et les nématodes, les micro-organismes, c'est-à-dire les virus et les bactéries, les médiateurs chimiques, notamment les phéromones et les substances naturelles.
Ça va bien ?
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Notre première escale, c'est l'exploitation arboricole de Claire et Pascal Crevel sur la commune de Ménil-sous-Jumièges. Ils sont adhérents au syndicat technique des producteurs de fruits de Normandie, animé par le service verger et produits cidricoles à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Ils sont donc accompagnés et reçoivent un appui technique, notamment pour changer des méthodes de production en utilisant le biocontrôle. Les explications de Sébastien Winsor, exploitant agricole, président de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime.
Ce qu'on essaye de faire et de mettre en avant, c'est de rechercher et de tester dans le département toutes ces méthodes alternatives, voir comment elles sont adaptées chez nous, comment on peut les utiliser facilement, quel est le niveau de résultat, quel est le résultat économique pour l'exploitant, combien ça lui coûte, est-ce que ça fonctionne, quel risque il prend à utiliser ces méthodes-là. On essaye de lui faire connaître et puis qu'il les montre à ses voisins en accueillant ses voisins chez lui et d'essayer de créer cet effet boule de neige. Donc on donne des références. On explique techniquement comment il faut faire, et puis on accompagne les agriculteurs pour la mise en place de ces nouvelles techniques.
C'est-à-dire que comme c'est des nouveautés, il faut votre accompagnement.
Mais comme c'est des nouveautés, d'abord les agriculteurs ne les connaissent pas tous, comme toute technique, il faut les maîtriser. Quand on met des pièges à phéromones, combien il faut en mettre, comment il faut les répartir, à quelle date il faut les mettre, sur quel insecte c'est efficace, quelle surveillance il faut utiliser. Donc tout ça, on l'explique à l'agriculteur, on l'accompagne. Il est souvent dans un groupe où ils rencontrent d'autres agriculteurs, et en rencontrant ces autres agriculteurs, ils échangent sur leurs pratiques. On fait aussi des expérimentations pour tester ces méthodes et bien mesurer, ajuster les doses, ajuster la façon de les utiliser pour qu'elles soient le plus efficaces possible, pour adapter aussi ces méthodes au climat normand qui peut parfois être un peu plus humide, un peu moins chaud que ce qu'on a pu faire dans d'autres essais ailleurs. Donc on adapte tout ça. Et cette solution, voilà, l'agriculteur, il a besoin de la mettre en place chez lui et de savoir comment la mettre en place. Donc on l'accompagne sur cette mise en place.
Vous avez parlé du risque économique.
Quand on change de façon de procéder et qu'on passe d'une technique où on utilise des produits phytosanitaires vers des techniques alternatives, que ce soit là en fruits, mais par exemple on l'a sur des semis de maïs, par exemple, ou sur des semis de betteraves chez nous, où on incite les agriculteurs à faire du désherbage mécanique, l'année où il va pleuvoir énormément, il peut rater son désherbage parce que ces techniques-là ne fonctionnent pas quand il fait un temps très humide. Donc s'il rate son désherbage, quel impact ça peut avoir sur sa culture, quelle perte économique ça peut engendrer. Et du coup, on essaye de lui faire mesurer ça. On essaye de mettre en place ces techniques alternatives, mais il faut essayer de le faire dans le respect de l'économie et de la rentabilité de l'exploitation. Par exemple, on a le désherbage mécanique. Le désherbage mécanique, c'est biné. Quand on bine, S'il repleut juste derrière, les mauvaises herbes qu'on a coupées, qu'on a déracinées, elles vont redémarrer. S'il pleut très régulièrement, quand j'ai semé mon maïs ou mes betteraves, elles vont arriver à s'être développées sans que j'ai eu les bonnes conditions pour faire du binage. Donc il va rester des mauvaises herbes. Donc cette technique-là, il y a des moments où elle est moins efficace. On a une autre technique, quand on sème du blé, le blé on le sème à l'automne. L'automne, on va dire, ça va de fin septembre jusqu'au 1er décembre, la période où on peut semer des blés. Plus on va le semer tard, moins on va avoir de mauvaises graines qui vont lever, parce que plus il va faire froid. Mais on va aussi avoir le blé qui va avoir le même problème. Il va moins bien lever. Et si on retarde de trop et qu'on arrive au mois de décembre ou fin novembre, il va tellement pleuvoir qu'on risque même de plus arriver à semer le blé.
Ce qui est une catastrophe.
Ce qui est une catastrophe. Donc, quand on accompagne un agriculteur sur retarder sa date de semis, on ne lui fait pas prendre non plus des risques inconsidérés et on lui dit, ben, vous pouvez retarder, mais il ne faut pas retarder au-delà de telle date parce qu'après, vous allez avoir un risque de plus arriver à semer votre blé, ce qui serait catastrophique. Donc, on l'accompagne sur un changement de ses pratiques. Peut-être qu'au lieu de semer le 1er octobre, il peut reculer au 15 octobre. Mais passé le 15 octobre, il faut qu'il commence à s'activer. Et passé le 1er novembre, on sait qu'on a un risque de perte économique. Donc, on l'accompagne sur comment le faire sans mettre son exploitation agricole en difficulté.
D'agriculteurs qui sont engagés dans ce programme chez vous?
Sur le département, une quinzaine d'exploitations qui sont engagées, on va dire dans une partie un peu novatrice et dans un programme suivi par l'État. Mais à côté de ça, on accompagne aujourd'hui pratiquement 1000 agriculteurs sur les 4000 qu'il y a dans mon département, c'est-à-dire pratiquement 1 sur 4, dans un groupe où il va échanger sur ses pratiques, où on va lui faire découvrir des nouvelles pratiques, où on va essayer de l'accompagner sur comment réduire ses produits phytosanitaires, comment utiliser ces méthodes de désherbage. Voilà. Il y a quelques jours, on avait une journée porte ouverte sur des essais de démonstration qu'on avait fait où on a reçu 350 agriculteurs encore en plus. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, de près ou de loin, pratiquement la moitié des agriculteurs sont sensibilisés à ça. Et puis, on va dire, on en a au moins 1 sur 4 qui est en train de le mettre en pratique activement. On organise cette année des portes ouvertes chez des agriculteurs qui ont mis des choses en place. Voilà, là aussi, il y en a un qui a mis quelque chose en place, il va recevoir 100, 50, 200 selon, voilà, voisins qui vont venir voir ce qu'il a fait. Mais là aussi, c'est une petite sensibilisation sur une petite chose qu'un agriculteur a mis en place chez lui et qu'on va chercher à développer chez les autres. Donc, on essaye d'emmener la grande majorité des agriculteurs vers ces changements.
Bah, de toute façon, c'est la bonne méthode parce que là, les agriculteurs ils parlent le même langage.
Oui, oui, les agriculteurs, ils parlent le même langage. Et puis, quand vous avez des choses qui viennent de la recherche et que c'est un chercheur qui leur parle, ils ont parfois un peu de mal à voir concrètement ce que ça pourrait donner sur leur exploitation. Quand vous allez chez un agriculteur, que l'agriculteur, il vous explique ce qu'il a fait, il vous explique si ça a marché ou si ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché et comment il le fera différemment l'année d'après, ben, souvent, c'est beaucoup plus convaincant que tous les beaux discours qu'on peut faire ou toutes les belles plaquettes qu'on peut imprimer. Ce qu'il faut, c'est arriver à le faire. On ne peut pas le faire d'un seul coup parce qu'on aurait une perte de rendement énorme et on mettrait en difficulté l'exploitation. Il faut changer ses méthodes petit à petit et puis au fur et à mesure de ce que la technique nous apporte comme nouvelle méthode. Par exemple, sur certains colzas, on arrive à mélanger des variétés pour avoir des variétés qui vont fleurir très tôt, qui vont attirer les insectes sur ces fleurs-là et faire que ben, les insectes s'occupent de ces quelques fleurs qui se sont ouvertes un peu avant les autres et puis vont laisser tranquilles les jeunes fleurs encore en bouton qui, elles, sont fragiles. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on met en place. On essaye aussi, par exemple, quand on sème ce colza, de le semer avec une légumineuse. La légumineuse a la capacité à capter l'azote dans l'air, donc à diminuer la quantité d'engrais qu'on va mettre. On sème le colza avec cette légumineuse au départ, et puis on espère que l'hiver il gèle. Et puis au printemps, la légumineuse elle se décompose et elle libère l'azote qu'elle a capté de l'air pour que le colza puisse l'utiliser. Donc c'est une économie d'engrais. C'est toutes ces choses-là où il faut un peu de temps, un peu d'expérience, des essais techniques pour arriver à les mettre en place chez les agriculteurs.
Je vous remercie. Claire et Pascal Cruvel produisent des fruits au ménil sous Jumièges, en Seine-Maritime, depuis 1994.
Et depuis quelques années, sous la houlette de la Chambre régionale d'agriculture, ils sont membres du programme Ecophyto, un programme national qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% à l'horizon 2018. Pascal Cruvel nous explique en quoi consiste cette démarche.
Nous avons un peu plus de 6 hectares de fruits de vergers.
Et quel genre de fruits vous cultivez ici ?
Des fruits rouges, donc ce sont des fraises, des cerises, des groseilles, du cassis, des framboises. Après nous avons des prunes et puis notre grosse production ce sont les pommes et les poires.
Alors, vous êtes dans le plan Ecophyto ?
Nous sommes dans le plan Ecophyto, oui. J'ai même mon certificat phyto, oui, un petit certificat que tout producteur doit avoir.
Vous avez commencé quand ?
Ben moi, j'ai mon certificat phyto depuis 3 ans.
Mais comment vous avez commencé ?
Nous faisons partie d'un syndicat technique des producteurs de fruits de Haute-Normandie et c'est eux qui nous ont renseigné.
Et vous avez commencé avec quoi ? Les pommes, les poires ?
Surtout les pommes et les poires, oui.
Alors, comment vous faites ? Quelles sont les techniques que vous utilisez ici ?
Des techniques nouvelles. Donc là, par contre, ce que nous faisions, c'est contre les acariens, les mauvais acariens. Nous avons un acarien prédateur que nous avons introduit dans le verger. Donc ça, c'était bien avant, c'était en 95-96.
Ça veut dire qu'il y a un acarien qui attaque vos plantations et vous avez l'acarien qui attaque cet acarien.
Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le Typhlodrome pyri. Et donc, cet acarien-là se nourrit des mauvais acariens. Mmh. Et après, il peut rester à vie dans la plantation. Et c'est à nous d'essayer de le conserver, ne pas faire de produits qui pourraient le détruire. Et il est implanté. Après, il régule la population des mauvais acariens.
Ah, il les détruit pas totalement, mais il les régule.
Ben, il vaut mieux avoir un équilibre, parce que pour lui, c'est sa nourriture. Donc, il vaut mieux une régulation que de tout détruire d'un seul coup, et puis qu'après, il repartirait, puisque faute de nourriture.
Alors, l'autre technique, contre les papillons ?
Donc là, c'est ce que l'on appelle la confusion sexuelle. Cette technique, c'est nous mettons des phéromones dans le verger. Il faut...
La cordelette que vous avez montrée, là ?
Voilà, c'est ça, oui, oui. Les petites cordelettes plastifiées qui est imbibée d'un produit, donc d'une phéromone. Donc la phéromone attire le papillon mâle. En fin de compte, la phéromone diffuse l'odeur de la femelle. Le papillon est perdu, ne trouve pas sa femelle, ne la féconde pas. Donc ça évite une fécondation, pardon, et donc une ponte d'œufs sur les pommes et après une larve qui rentrerait dans la pomme.
Donc il n'y a pas de reproduction ?
Non, non, le papillon, au bout de 2 ans, arrête de se reproduire et quasiment disparaît du verger.
Alors, d'autres techniques ?
C'est beaucoup de choses manuelles, en fin de compte. Donc là, on tolère de laisser des pucerons, par exemple, dans le verger. Souvent, ce sont les coccinelles ou d'autres petits insectes qui s'occupent de les détruire. Ou après, il y a aussi beaucoup de travail manuel à faire. C'est d'enlever des branches qui sont malades ou des branches qui sont trop infectées par les insectes.
Je vous remercie.
Bon, merci.
La dernière, monsieur.
OK.
Bonne continuation.
Merci.
Deuxième étape de notre visite, l'exploitation de Jean Maillard à Octeville-sur-Mer, toujours en Seine-Maritime. Ici, on fait des grandes cultures et des cultures industrielles, c'est-à-dire pommes de terre, betteraves sucrières, lin textile. Dans cette exploitation familiale, le revenu est exclusivement lié aux cultures de vente. L'exploitation est engagée depuis 2012 à 100% de sa surface dans le réseau Défi Ferme.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Émeric Pillet est responsable de la cellule d'animation nationale du réseau Défi Ferme.
C'est un réseau qui a pour objectif de montrer qu'il est possible de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc le DE, c'est démontrer, le E, c'est expérimenter, et puis FI, c'est pour les phytosanitaires.
Alors on va prendre ce sigle lettre par lettre, démontrer. Pourquoi vous avez eu besoin de démontrer ?
Alors, pourquoi il y a besoin de démontrer ? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on regarde la diversité des exploitants au niveau de la France, il y a des exploitants qui sont plus ou moins économes, il y en a qui ont des pratiques plus ou moins vertueuses, et il est important de montrer qu'on peut réduire, et pour montrer qu'on peut réduire, il semblait intéressant et pertinent de s'appuyer sur les exploitants les plus avancés ou les plus en pointe, ou ceux qui avaient décidé de prendre peut-être un peu plus de risques, mais qui maîtrisaient ce risque d'un point de vue global.
Et comment vous faites ça ?
Alors, pour regarder les exploitants et leurs pratiques, on a formé des groupes d'agriculteurs. Et ces groupes, on les suit avec un ingénieur réseau qui est à mi-temps. Et on a tout un travail d'enregistrement des pratiques, ce qui permet d'avoir un suivi pluriannuel et de pouvoir étudier l'évolution des pratiques, les analyser, les comparer et étudier. À partir de là, de pouvoir extraire et sélectionner les pratiques les plus vertueuses et les plus intéressantes.
C'est que dès que vous tenez un qui travaille bien, comme vous dites, de façon vertueuse, vous amenez les autres pour voir ce qu'il fait.
C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'il sert à la fois de démonstration, il permet de faire des journées où les gens peuvent se rencontrer, discuter, échanger, comprendre comment la personne arrive à utiliser si peu de produits phytosanitaires. Il sert aussi dans le cadre de production de référence. Donc, on va analyser ses résultats, les décortiquer, les comparer au groupe et produire un certain nombre de documents, de fiches, de plaquettes qui seront diffusées, valorisées par la suite et utilisées par les conseillers.
Alors, expérimenter.
Alors expérimenter, c'est que bien sûr il y a déjà des choses qui sont faites, mais pour aller jusqu'à l'objectif qui était demandé par le gouvernement, qui est de moins 50%, il y a un certain nombre de verrous, notamment techniques et technologiques, et il est nécessaire de faire tomber ces verrous et donc d'essayer de nouvelles solutions, car pour atteindre ces résultats, au vu des systèmes et des solutions que l'on a à notre disposition, les résultats semblent quand même très difficiles à atteindre. Donc il est absolument indispensable de pouvoir tester de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveaux systèmes. Donc c'est tout le rôle notamment du réseau XP qui est complémentaire au réseau ferme, dont l'objectif est vraiment d'expérimenter, de tester, de mettre en œuvre des solutions pour demain.
Quels sont ces verrous ?
Alors les verrous, ça peut être des verrous par rapport à du matériel, par rapport à des pratiques, par rapport à de la conception de systèmes de culture, donc ou alors par rapport à des programmes ou de protection de la culture. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on passe de manière peut-être différente, avec des doses différentes, à des moments peut-être plus particuliers. Donc il y a peut-être des moments qui sont plus importants à suivre au niveau de la culture, puis d'autres qui le sont peut-être sur lesquels on peut considérer que le risque est beaucoup moindre. Donc il y a un certain nombre de choses à travailler et ça se fait notamment dans les programmes expérimentaux.
Ça veut dire que comme c'est nouveau comme système, il faut que vous-même vous appreniez en marchant en même temps que les paysans.
C'est ça. Aujourd'hui, on est obligé de regarder un peu d'autres systèmes, peut-être un peu différents, voir comment on peut faire mieux, tout en conservant un niveau de production tant en qualité qu'en quantité satisfaisant. Et c'est là où il faut que tout l'appareil, à la fois de conseils, donc on va dire, il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent évoluer, hein, il y a aussi les conseillers, il y a aussi les chercheurs. Donc tout le monde doit évoluer, tout le monde doit travailler, tout le monde doit réapprendre peut-être un certain nombre de choses.
En fait, le réseau DIFI, ça sert à divulguer le programme EcoPhyto.
Mais moi, l'expression que j'affectionne, j'ai tendance à dire que le réseau DIFI, c'est le moment où le plan EcoPhyto a les bottes aux pieds. Donc il va sur le terrain et on regarde concrètement ce que l'on peut faire. Et ça me semble un moment important et je pense que c'est là où les agriculteurs peuvent se retrouver parce que ça permet de regarder comment le voisin fait. On retrouve un peu ce concept de regarder par-dessus la haie, comment le voisin peut faire. Donc c'est vraiment, on capitalise sur l'échange, sur les bonnes pratiques, sur l'expérience individuelle et on essaye de mettre en avant des gens qui savent, hein, donc les gens de terrain, plutôt qu'essayer de regarder comment il faudrait faire. On regarde comment les gens font et on s'appuie sur leur expérience.
Nous sommes où ici ?
Donc ici nous sommes chez Monsieur Maillard, donc un exploitant agricole en grande culture et qui appartient au réseau DIFI en grande culture, polyculture et élevage. Et donc il a une diversité de production, donc il utilise plusieurs leviers aussi pour. Donc je crois qu'il travaille sur des bas volumes et des réductions de doses, notamment. Il travaille sur des mélanges variétaux, il travaille sur l'utilisation d'outils mécaniques pour faire du désherbage. Donc il essaye d'actionner une somme de différents leviers qui combinés les uns aux autres permettent de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires.
Comment fonctionne ce système de mélange variétaux ?
Le principe est de mélanger différentes variétés de blé qui ont des potentiels différents, mais qui ont aussi des sensibilités aux maladies différentes. Et donc cette sensibilité différente permet de limiter en partie la propagation de la maladie.
Donc vous voulez me dire qu'il faut la combinaison de toutes ces techniques-là ? On a une panoplie qu'on peut adapter suivant les circonstances, suivant le sol, suivant la pluviométrie.
Mais c'est un peu la difficulté de l'agriculture moderne, je crois. On n'a plus, comme autrefois, une solution unique et universelle. Il faut, effectivement, je rebondis sur le terme, il faut une panoplie d'outils dans lesquels on peut piocher, qu'il faut adapter à chacune des exploitations en fonction de son contexte pédoclimatique, de l'année, de la culture qui est mise en place. Et c'est là où l'exploitant peut retrouver toute sa place de chef d'entreprise. Hein, car c'est bien à lui de décider comment, au vu de son exploitation et de la connaissance qu'il a de ses parcelles et de son terrain, quelles sont les solutions qu'il peut mettre en œuvre qui seront les mieux à même de réduire et d'avoir une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.
Je vous remercie, on va aller voir Monsieur Maillard.
Très bien, merci beaucoup.
Sur l'exploitation de Jean Maillard, on combine différentes techniques de biocontrôle, les mélanges variétaux en blé, le désherbage mécanique en betterave, le bas volume en eau, la modulation des doses.
J'exploite 132 hectares.
Et qu'est-ce que vous cultivez ?
Principalement pommes de terre, lin textile, blé, betterave et un peu d'oignon.
Alors, on m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes une ferme défi.
Oui, je fais partie du groupe Défi pour la Seine-Maritime. On est 8 fermes au niveau des deux départements au Normand, Seine-Maritime et l'Eure.
L'objectif, c'est de produire autrement et voilà. De diminuer les intrants phytosanitaires.
C'est ça. Notre principe, c'est de produire, de maintenir nos rendements, mais c'est de réduire notre consommation de produits phytosanitaires ou d'engrais. De par des améliorations, les choix des variétés, les mélanges de cultures, les mélanges de variétés. Donc il faut des systèmes simples, mais on y arrive tout doucement à avancer.
Ça vous oblige à combiner plusieurs techniques. Est-ce que vous appelez les bas volumes ?
Oui, donc je suis en bas volume depuis déjà 7 ou 8 ans. Donc ça, c'est une technique qui nous amène obligatoirement à une réduction des réductions, parce que qui dit réduction du volume, donc c'est le volume d'eau qu'on réduit. Mais comme on réduit le volume d'eau, on garde toujours la même concentration. Donc au moins, on met moins d'eau, on met moins de produits avec.
Ah, c'est-à-dire que pour épandre le produit sur l'exploitation, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut que vous diluiez ça dans l'eau.
Oui, un produit phytosanitaire, on ne peut pas l'utiliser pur. C'est des produits, il y a certains produits qu'on utilise autour de 10-12 grammes à l'hectare, on n'a aucune machine qui peut nous permettre de mettre 12 grammes. Donc ce produit-là, on le dissout dans de l'eau et on pulvérise ça avec nos pulvérisateurs. Traditionnellement, on met 200-300 litres d'eau. Moi, je suis à 60 litres d'eau. Donc comme je suis qu'à 60 litres d'eau, j'en mets moins. Parce que j'ai pour avoir la même concentration.
Mais quand vous avez commencé à diminuer cette dose-là, vous n'avez pas eu peur ?
Oui, et même encore. Il y a des moments où on ne dort pas toujours tranquille. Il faut énormément aller observer ces parcelles avant pour trouver le stade opportun et idéal pour traiter. Et après, de voir, parce que de temps en temps, on se plante. La dernière, en betterave, je me suis planté. J'ai voulu trop baisser et puis il ne fallait pas. Puis c'est vrai qu'il faut énormément observer. Ça demande un peu plus de suivi de sa parcelle.
Ah, c'est-à-dire que non seulement on diminue les volumes d'eau, mais on ne traite pas systématiquement, on traite quand il y a le besoin.
Moi, sur la ferme, il n'y a plus aucun traitement de fait systématique. Aucun. C'est tout une observation. Ça demande un peu plus de temps, mais ça marche, et puis on y arrive comme ça. Ça demande un peu plus de temps, il faut prendre le temps de prendre la voiture. Et moi qui ai des personnes à peau loin, prendre la voiture pour aller voir, et puis les insectes, s'il n'y en a pas beaucoup, on ne traite pas, et puis voilà. Et puis la maladie, si elle est très peu en pommes de terre cette année, on a eu jusqu'alors une période sèche. Je suis qu'à deux traitements jusqu'alors. La dernière, à la même époque, on avait déjà fait 5. Il faut beaucoup observer, c'est de l'observation.
L'autre technique, c'est ce que vous appelez la combinaison des variétés.
Oui, alors ça c'est en colza, moi je ne fais plus de colza, mais quand je faisais du colza, on mélangeait d'autres espèces. On mélangeait des légumineuses avec du colza, qui fait que la légumineuse, à l'automne, apporte de l'azote au colza. Ensuite là en blé, je suis en mélange de variétés, c'est-à-dire que je mélange 4 ou 5 variétés. Donc dedans je mets une variété, toujours des variétés du même type, mais une variété, dedans il y a si bien une variété qui va être, résistante à l'averse, une autre qui va être résistante à certaines maladies, à la rouille ou machin comme ça. Et le fait de les mélanger, ça fait un mélange qui résiste bien.
Ça fait que comme par exemple, si vous avez une variété résistante entre deux variétés qui ne sont pas résistantes,
La maladie se fait pas.
Ça se contamine
pas. Ça se contamine pas. J'avais l'exemple encore là, il y a un mois, où c'était flagrant, où j'avais dans un mélange, où j'avais une variété qui est l'altigo, qui est hyper sensible à la rouille. Dans mon mélange à un quart, l'altigo, il n'avait pas du tout de rouille. Juste à côté, j'avais de l'altigo pur, qui était envahi de rouille, où il a fallu que je traite, que le mélange, je ne l'ai pas traité.
Mais là, quand même, il y a une contrainte, parce que pour le blé, il faut quand même de la qualité meunière. Comment vous faites ?
Oui, mais c'est pour ça que j'ai bien dit, on mélange des variétés qui sont mélangeables. Dire qu'il faut qu'on ait le même type de blé, les mêmes valeurs. Alors on sort quand même à un problème, c'est que certains organismes commencent à nous reprocher de fait de nos mélanges, parce qu'eux, ils veulent savoir ce que c'est comme variété. Je leur dis toujours, ça m'étonnerait que toutes les variétés soient réellement toutes bien. Quand on voit le nombre de variétés qu'il y a, ça m'étonnerait que tout soit bien mis en pur.
Alors l'autre technique, c'est le désherbage.
Oui, donc le désherbage. Donc je suis en chimique sur tout, sauf en betterave, où je fais une partie en mécanique.
Donc c'est des herbages, ça évite.
Mais le fait d'avoir, depuis 2-3 ans, je décale mes dates de semis de blé, je les repousse de 8-10 jours. Le fait de semer un tout petit peu plus tard, bah, ça m'évite un désherbage d'automne.
Expliquez-nous ça.
Bah, dire que comme le blé, 8 jours de décalage de semis de blé, au moment du semis, au niveau des stades, ça fait énorme. Arriver au mois de décembre, ça fait une différence énorme. Et comme le blé n'est pas développé, la mauvaise herbe non plus, elle n'est pas développée. Donc ça nous permet d'attendre le printemps. Avant, je faisais systématiquement un désherbage d'automne, plus un rattrapage au printemps. Qu'aujourd'hui, je ne fais plus qu'un désherbage au printemps. De temps en temps, on se plante, hein, mais les gens, maintenant, les gens ont compris que ça... En pomme de terre, j'étais le premier à faire des réductions d'eau. Il y a 5-6 ans, on m'a dit, mais tu vas te planter complètement, ça ira jamais. C'est pas possible, pomme de terre, on met au moins 300 litres d'eau. Ouais. Aujourd'hui, on est plusieurs à le faire, hein, puis on s'aperçoit que ça marche. Hein.
Je vous remercie.
On y va. Allez, merci madame.
Merci beaucoup.
Voilà. Bonjour.
Nous étions en Seine-Maritime en France avec les techniciens de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les exploitants agricoles qui travaillent à la vulgarisation des techniques de biocontrôle des ravageurs. Il y avait à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.